Cours de critique par le Père Philippe à Saint-Joseph le 19 novembre 1986.
inséparable du second? Est-il simplement quelque chose que j'arrive à préciser à partir du jugement, parce que je ne peux pas m'arrêter au jugement, mais que ce premier n'existe que dans le jugement? Il y a là toute une série de questions importantes à voir au plan critique. Vous voyez, autrement dit, pour que vous voyez mieux les liens entre ce que nous appelons l'appréhension et le jugement. C'est un des premiers moments critiques extrêmement importants que l'appréhension existe. J'en ai le signe de cette existence de l'appréhension par ces termes. Formation. vous employez des mots pour ça. C'est des mots qui sont un quelque chose, petite étincelle. C'est très curieux, c'est un phénomène très intéressant. Surtout si vous comprenez que le mot, c'est comme la monnaie. Alors, il y a des falsifications de la monnaie, des falsifications du mot, des inflations aussi, de tous les mêmes vices. Alors, il faut comprendre comment le mot est un signe qu'il y a quelque chose derrière la pensée. De fait, le mot me conduit à penser. Première opération élémentaire. je peux la thématiser, tout en reconnaissant que dans l'exercice, elle est toujours liée à autre chose, toujours liée à un jugement. C'est pour ça que c'est très délicat, la priorité de l'appréhension par rapport au jugement. Priorité, je dirais, formelle de l'élément, mais pas priorité absolue. s'il a trouvé dans Descartes. Descartes dit qu'il tourne le dos à Aristote. Un moment très important, parce que c'est rare que Descartes s'affronte à Aristote. Il a plutôt peur. Mais là, il s'affronte. Alors il dit qu'il inverse l'ordre des questions. Pour Aristote, le eis esti.
Antérieure.
ça, puis des mots. Il y a quelque chose qui peut être vrai de temps en temps. Le Ménon de Platon, vous savez bien quand il montre que l'esclave connaît parfaitement la géométrie. Il suffit tout simplement de faire tous les raisonnements en face de lui, il comprendra tout de suite. Donc la réminiscence. Et la réminiscence met un primat sur l'appréhension par rapport au jugement, mais pas entièrement. Parce que la réminiscence me reconduit à ma contemplation première. Et donc le jugement d'existence est premier. Mais il y a un moment où on pourrait dire que la réminiscence met les idées en premier lieu. Mais c'est surtout Descartes qui alors isole l'appréhension par le point de vue des idées innées. Et les idées innées sont premières. Alors pourquoi ça ? Je crois que ça, c'est l'influence du domaine mathématique. Pour Descartes, c'est très net. Et pour Occam, c'est l'influence logique. En logique, l'universel est avant le jugement d'existence. L'objet propre de la logique, c'est l'universel. Or, l'universel, c'est justement la modalité particulière que prennent les idées quand elles sont en moi. C'est l'idée qui est universelle, c'est pas la réalité. Donc le primat de la logique et le primat des mathématiques expliquent ce renversement. Et je crois que c'est tout le temps comme ça. Alors c'est très important pour la scolastique, vous voyez, la scolastique décadente, qui dépend d'Occam. Dans la scolastique décadente, le jugement d'existence n'existe plus. Et qu'est-ce qu'on a ? On a des définitions. La définition. Ah, très bien, la définition. Mais d'où ça vient, la définition ? Ça vient de mon expérience. On part de définitions et on déduit tout à partir des définitions. On voit très bien comment le primat de l'appréhension va mettre le primat de la définition. Ça, il faut le comprendre, il faut le saisir, parce que c'est capital comme tournant. Toute une structure de pensée qui est inversée. Et alors, c'est d'autant plus éloquent que Descartes en a conscience. Tandis qu'Occam n'en a pas conscience. C'est toute la différence. Occam n'a pas conscience de mettre un primat logique absolu. Et qu'à partir de là, l'appréhension est première. Il l'affirme. Il n'a pas conscience de tourner le dos à Aristote. Puisqu'il veut être au contraire aristotélicien. Il veut un retour à Aristote. Et ce retour à Aristote se fait par une pendaison d'Aristote. Parce que c'est vraiment l'inverse. Aristote ne marche plus sur ses pieds. Il marche sur ses têtes. Complètement renversé. Puisqu'on met les idées avant.
Sartre dit admirablement, j'ai horreur, dit-il, c'est dans
distinguer l'appréhension du jugement. Je vais me demander maintenant, au point de vue critique toujours, qu'est-ce que c'est que cette première opération d'assimilation, cette première opération d'appréhension? Mon intelligence appréhende, elle appréhende quoi? Quel est l'objet propre de cette première opération?
Parfaite à ce moment-là. Pourquoi l'intelligence?
assimiler la fluidité. Si vraiment je suis en présence de la première opération d'intelligence, je suis donc en présence de ce qui spécifie, ce qui détermine en premier lieu l'intelligence. L'intelligence cherche toujours, à travers les réalités qui sont en devenir, ne l'oublions pas, toutes nos expériences nous font toucher des réalités qui sont en devenir. L'intelligence, à travers ces réalités qui sont en devenir, cherche son bien. C'est-à-dire quelque chose qui est au-delà du devenir. Quelque chose qui est au-delà d'une panne pareille. Tout change. L'intelligence cherche son bien. Et son bien, c'est justement ce qui est au-delà du devenir. L'acuité, la nature intelligible de la chose, ce qui, dans la réalité expérimentée, a quelque chose de déterminé, qui est au-delà de ce qui change. L'acuité d'une chose demeure toujours la même. Prenez pour vous. Depuis votre premier moment de votre conception jusqu'à maintenant, vous ne refusez pas que vous êtes la même réalité. Du moins, je crois. Ça devient dangereux. Vous savez, quand on commence à dire « je ne suis pas le même que celui qui était dans le berceau », je dis « heureusement que vous n'êtes pas le même ». Mais et vous êtes d'autre part le même. Il y a quelque chose en vous qui demeure, quelque chose qui a changé. Quelque chose qui a changé, vous avez grandi. C'est évident qu'en fait, votre berceau à côté de vous. C'est un peu gênant. Ça dépasse dans tous les sens. Là, ça ne va plus. Mais c'est la même personne qui a des modalités tout à fait différentes. Donc, il y a quelque chose qui demeure. Ce quelque chose qui demeure, le TN, qui fait que c'est la même réalité. C'est ça l'acuité. C'est ça que l'intelligence cherche. Elle cherche le nécessaire. Et non pas le contingent. En premier lieu, elle se nourrit du nécessaire. L'acuité des choses sensibles. L'acuité de l'homme. Voilà ce qu'elle cherche. Qu'est-ce que c'est? Alors, elle se sert. Elle se sert, c'est-à-dire, elle assimile dans les réalités extérieures ce qui est son bien. L'assimile. Parce que ce bien, elle le prend au plus intime d'elle-même pour être son bien, pour connaître la réalité. Il y a comme un dynamisme très profond de la vie de l'intelligence. Se nourrit en prenant dans tout ce qu'elle voit, mais quasi instinctivement. Vous n'avez même pas l'expérience de ça, tellement c'est instinctif. Mais on ne peut pas expliquer la vie d'intelligence sans poser ça. Et je le déterre au point de vue critique. Et quand je l'ai déterré, je dis, mais c'est vrai, c'est vrai. Mon intelligence est faite pour cela. D'existence, c'est bien évident, mais c'est pas ça qu'elle recherche en premier lieu. Ce qu'elle recherche en premier lieu, c'est la nécessité de certaines choses. Elle a besoin, elle se l'assimile. Et l'acuité est justement ce qui est assimilable de la réalité. Ce qui n'est pas assimilable de la réalité, c'est son exister. Et ce qui est assimilable de la réalité, c'est la manière dont l'exister est inassimilable, la manière dont l'exister, c'est sa détermination essentielle.